Mercredi 8 février, il est 16h. Merci d'écouter CILS FM 107,9, votre radio communautaire francophone dans la grande région de Victoria. La neige continue de tomber sur la ville et cette neige devrait se changer en pluie au cours des prochaines heures. Environnement Canada nous prévient qu'il y a un risque de pluie verglaçante en soirée. Évitez de prendre la voiture si vous le pouvez et si vous devez absolument circuler. On vous encourage fortement à réduire la vitesse, à garder une bonne distance entre les véhicules et à garder votre calme en tout temps. Bonne fin d'après-midi tout le monde, bon retour à la maison en toute sécurité si vous êtes sur la route et bienvenue dans l'émission Le Débrief. Il sera évidemment question de météo. On expédie d'abord les deux bulletins de Denis Lépine et on se retrouve dans 4 minutes avec tous les détails. La production du Débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Le gouvernement Trudeau a décidé de rétablir le programme de contestation judiciaire. Celui-ci vise à venir en aide financièrement aux personnes ou groupes pour faire respecter leurs droits. Le budget annuel du programme s'élèvera à 5 millions de dollars. Le gouvernement a précisé aussi vouloir moderniser le programme d'ici l'automne prochain. Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a dit que le programme témoigne de l'engagement du gouvernement à mieux protéger les droits en matière de langues officielles. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante s'est prononcée sur le projet de loi C-274. En fait, la Fédération souhaite que les députés fédéraux appuient le document qui vise à changer la loi de l'impôt sur le revenu pour faciliter le transfert familial des petites entreprises. Le projet de loi devrait être soumis en deuxième lecture sous peu. Vice-présidente principale de la Fédération, Martine Hébert, a dit que les membres encouragent les élus à faire en sorte que ce projet de loi passe à l'étape de l'étude en comité. Elle a dit qu'il pourrait permettre de corriger une sérieuse lacune au niveau des règles de transfert. Selon la Banque royale du Canada, les régimes de retraite canadiens à prestations déterminées ont enregistré en 2016 un rendement de 6,8%, soit 1,4% de plus qu'en 2015. James Roach, membre de la direction de RBC, a dit que malgré une conjoncture économique et boursière difficile au début de 2016, les régimes de retraite ont produit des résultats impressionnants pour l'ensemble de l'année. Il a dit aussi que la surveillance rigoureuse des événements mondiaux s'est avérée un facteur important de réussite au cours d'une année marquée par le changement. La ministre des Affaires étrangères du Canada poursuit et conclut aujourd'hui sa mission à Washington. Chrystia Freeland doit rencontrer Rex Tillerson, secrétaire d'État des États-Unis. Les discussions doivent porter sur un large éventail de sujets, dont les liens économiques et de sécurité qui existent entre les deux pays. La ministre a assisté mardi à un événement organisé par l'ambassade du Canada en l'honneur des femmes nouvellement élues au 115e Congrès des États-Unis. Le gouvernement canadien a souligné avoir réaffirmé son engagement à l'égard des femmes, de la paix et de la sécurité avec le dépôt du troisième rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international de la Chambre des communes. Le gouvernement du Canada s'engage à tenir compte des recommandations du rapport. Parmi les recommandations, notons l'augmentation du nombre de femmes choisies pour les opérations de paix. Le Canada prendra également en considération les résultats de l'examen de l'aide internationale des Nations unies et des pays qui sont touchés par des conflits. Alors que Justin Trudeau a dit que la réforme électorale n'était plus sur la planche de travail, 60 000 personnes ont signé jusqu'à présent la pétition lancée en novembre dernier par le député du NPD Nathan Cullen. La ministre des Institutions démocratiques Karina Gould a dit aux journalistes que ce dossier ne figure pas dans son mandat. L'Agence de la santé publique du Canada enquête présentement sur plusieurs cas de maladies gastro-intestinales. Les cas ont été signalés en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. Ils seraient reliés à la consommation d'huîtres crues et partiellement cuites. L'agence a indiqué dans un communiqué qu'il s'agit d'une enquête nationale. L'agence a tenu à souligner qu'il est possible d'éviter la maladie en s'assurant que les huîtres sont cuites à une température de cuisson interne de 90 degrés Celsius pendant au moins 90 secondes. David Johnston recevra au cours des prochaines heures les lettres de créance de 4 nouveaux chefs de mission lors d'une cérémonie à Rideau Hall. Le gouverneur général du Canada recevra les documents de l'Autriche, du Vietnam, du Brésil et du Nicaragua. Rappelons que les nouveaux ambassadeurs et les nouveaux hauts commissaires doivent être officiellement accueillis par le gouverneur général du Canada avant d'exercer leurs fonctions. Présentement, plus de 160 chefs de mission diplomatiques sont accrédités au Canada. Au sport au hockey, dans la Ligue nationale, hier, victoire de Calgary 3-2 contre Pittsburgh. Les Rangers de New York ont eu raison des Ducks d'Anaheim 4-1. Buffalo 5, San Jose 4, Toronto 3, Dallas 1, Columbus 3, Détroit 2. Victoire par blanchissage de Washington 5-0 contre la Caroline. Tampa Bay a fait de même avec Los Angeles. Et autre jeu blanc entre Saint-Louis et Ottawa, revers des Sénateurs. Le Minnesota 4, Winnipeg 2, Nashville 4, Vancouver 2. Et autre revers du Canadien, cette fois contre le Colorado 4-0. Ce soir, une seule rencontre dans le circuit Batman, Chicago sera au Minnesota. NFL, bien alors que Kyle Shanahan vient d'accepter le poste d'entraîneur-chef des 49ers de San Francisco, les Falcons d'Atlanta n'ont pas perdu de temps pour se trouver un nouveau coordonnateur offensif en la personne de Steve Sarkisian, anciennement de l'Université de l'Alabama. Et dans la NBA ce soir, Toronto sera au Minnesota.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Bienvenue dans l'émission Le Débrief à 16h05. Vous écoutez CILS FM 107,9. Alors ça tombe bien, Environnement Canada vient de mettre à jour son avertissement de tempête hivernale adressé aux résidents de Victoria. Je vous lis les quelques lignes de cet avertissement apparaissant sur le portail d'Environnement Canada. Donc, Environnement Canada prévoit des conditions hivernales dangereuses. La première bande de neige s'est propagée sur le sud-ouest de la Colombie-Britannique cet après-midi et elle est en train de faiblir en ce moment. Une zone de neige plus intense se formera ce soir et apportera une accumulation plus importante. De plus, il pourrait y avoir de la pluie verglaçante alors que de l'air plus doux arrivera en altitude. Ceci est plus probable dans les secteurs de l'intérieur, donc loin des rivages, loin du littoral. À mesure que l'air plus doux s'installera, la limite pluie-neige augmentera et les précipitations se changeront en pluie dans la plupart des secteurs tôt jeudi. D'importantes quantités de pluie sont à prévoir jusqu'à jeudi. Par conséquent, continue cet avertissement d'Environnement Canada, l'accumulation de neige variera considérablement selon la région. De 5 à 15 cm de neige près de la côte et jusqu'à 20 cm dans l'intérieur des terres. De plus, il pourrait tomber de 20 à 30 mm de pluie par-dessus la neige fraîchement tombée. Alors voilà pour l'essentiel de l'avertissement. Environnement Canada qui invite les automobilistes à faire preuve d'extrême prudence actuellement. Et ça vaut également pour les piétons qui marchent dans les rues de Victoria. Alors je vous encourage à vous informer sur cet avertissement et sur les conditions en consultant le portail d'Environnement Canada, météo.gc.ca. Alors, on a moins 1 degré actuellement au centre-ville de Victoria. On a une neige mouillée qui tombe abondamment, donc ça va se poursuivre et potentiellement se changer en pluie, voire en pluie verglaçante en cours de soirée, donc restez vigilants. Je vous encourage à consulter Drive BC, le portail de l'Agence des transports de la Colombie-Britannique. Si vous devez absolument vous déplacer en voiture, il y a une carte mise à jour rafraîchie en temps réel avec des webcams qui vous permettent d'apprécier l'état des routes, d'évaluer le degré d'enneigement de la route que vous souhaitez prendre. Donc Drive BC, fortement recommandé. On a aussi le site de BC Transit à propos des transports en commun. BC Transit a modifié certains itinéraires de bus ici dans la ville de Victoria. C'est indiqué dans la section bctransit.com/schedules and maps et vous avez une alerte qui indique en temps réel les itinéraires de bus qui ont été modifiés. Il y a notamment le 14, le 24 et le 26 qui suivent des itinéraires plus ou moins modifié à l'heure actuelle, donc en fin de journée, donc actuellement à 16h et des poussières. Et il y a BC Hydro par ailleurs qui nous signale des pannes de courant dans la péninsule Saanich, du côté de Central Saanich et de North Saanich. Une panne affecte actuellement 1500 foyers environ. Ça a été mis à jour il y a quelques minutes, donc 1500 foyers du côté de Saanich et c'est concentré dans un endroit qui s'appelle Twin View Place. Donc vous trouverez ça sur BC Hydro dans la section Power Outage. Power Outages, pardon, et vous aurez toutes les informations, c'est rafraîchi en temps réel, en permanence. Donc, la neige recouvre actuellement le sud de l'île de Vancouver, on a moins 1 à Victoria, 0 à Nanaimo, c'est moins 1 à Sook, et la neige se dirige également vers Vancouver, où il fait actuellement moins 1 degré. On se rend maintenant au bulletin des Nations Unies, c'est le radiojournal de l'ONU, on va se retrouver dans une dizaine de minutes pour la suite des infos dans le débrief du 8 février.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de Nu Info. En titre, coup de projecteur sur la situation en Libye, nous reviendrons sur les élections historiques en Somalie, les condamnations se multiplient après l'attaque sanglante contre la Cour suprême à Kaboul, appel humanitaire de 2,1 milliards de dollars pour venir en aide à 12 millions de Yéménites et l'ONU marque les 20 ans depuis la création du mandat de représentant spécial pour les enfants et les conflits armés. Journée historique pour la Somalie qui doit aujourd'hui choisir son nouveau président. Pour la première fois depuis des décennies, les parlementaires se sont réunis mercredi pour déterminer qui, parmi les 23 candidats, sera le prochain président du pays. Le représentant spécial de l'ONU pour la Somalie, Michael Keating, souhaite un bon déroulement des élections afin que le nouveau président puisse s'attaquer aux questions urgentes auxquelles est confronté le pays.
Ce qui est extrêmement important, c'est que le nouveau président soit accepté comme ayant été légitimement élu par les parlementaires et par le grand public. Si c'est le cas, alors, ce qui est important, c'est la possibilité de s'attaquer dans les 6 à 12 prochains mois aux questions très sérieuses auxquelles le pays est confronté. Le problème le plus pressant est la sécheresse, qui pourrait se transformer en famine. Et il faut une mobilisation complète du gouvernement somalien, de la société civile somalienne et de la communauté internationale. Il faut également accorder rapidement attention au secteur de la sécurité somalien. Et puis il y a un certain nombre d'autres questions, telles que la révision constitutionnelle, car de nombreuses zones grises doivent être résolues, y compris la relation entre le gouvernement central et les États membres de la fédération, les rôles respectifs du Premier ministre et du Président, de la Chambre haute, de l'Assemblée, et ainsi de suite.
Les condamnations se multiplient suite à l'attentat sanglant qui a frappé Kaboul mardi. Perpétré à l'extérieur de la Cour suprême dans la capitale afghane, l'attaque a fait au moins 21 morts et plus de 40 blessés. Le jour même, le secrétaire général avait appelé à ce que les auteurs de cette explosion soient traduits en justice, soulignant que les attaques indiscriminées contre les civils, y compris des employés d'institutions judiciaires, sont des violations du droit international humanitaire. Le point avec Isabelle Dupuis.
Après Antonio Guterres, le Conseil de sécurité a lui aussi condamné dans les termes les plus fermes l'attentat du 7 février qu'ils ont jugé odieux et lâche. Dans une déclaration publiée mardi, les 15 ont réitéré leurs graves préoccupations face à la menace que représentent les talibans, Al-Qaïda et Daesh, ainsi que les groupes armés et illégaux pour la population civile et les forces de défense et de sécurité nationales. Ils ont eux aussi appelé à traduire les auteurs d'actes terroristes en justice, ainsi que leurs organisateurs financiers et sponsors, exhortant par ailleurs l'ensemble des États à coopérer activement avec les autorités afghanes sur ce point. Selon la mission d'assistance de l'ONU en Afghanistan, l'attentat semble avoir délibérément pris pour cible le personnel judiciaire civil au moment de la fermeture des bureaux.
L'ONU a réclamé ce mercredi 2,1 milliards de dollars américains pour aider cette année 12 millions de personnes affectées par le conflit au Yémen, soit près de la moitié de la population du pays. Lors de la présentation de l'appel de fonds à Genève, le chef des opérations humanitaires de l'ONU a plaidé pour un accès rapide, sans entrave et des ressources adéquates pour répondre à ces besoins humanitaires. Selon Stephen O'Brien, les partenaires humanitaires sont prêts à travailler pour éviter une catastrophe humanitaire dans le pays. Alpha Diallo.
La famine menace le Yémen sans soutien international. Lors du lancement de l'appel de fonds ce mercredi à Genève, Stephen O'Brien a plaidé pour des ressources adaptées et demandé 2,1 milliards de dollars pour venir en aide à 12 millions de Yéménites. Le patron des opérations humanitaires de l'ONU rappelle que 2 années de guerre ont dévasté ce pays et des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont désespérément besoin de l'aide de la communauté internationale. Selon ses estimations, plus de 10 millions de personnes sont sévèrement touchées et ont besoin d'urgence de nourriture, de soins, d'eau potable ou encore d'infrastructures. Dans ce lot, plus de 3 millions millions de personnes, dont plus de 2 millions d'enfants, souffrent de malnutrition sévère, des populations vulnérables qui ne savent pas comment se procurer leur prochain repas. Au total, les Nations Unies estiment que 2/3 de la population, soit plus de 18 millions de personnes, ont besoin d'aide au Yémen. Et face à cette urgence, le chef de l'OCHA, Stéphane O'Brien, a plaidé pour un accès humanitaire rapide et sans entrave, non sans inviter l'ensemble des parties au conflit à mieux protéger les civils.
Les Nations Unies marquent ce mercredi les 20 ans depuis la création du mandat de représentant spécial pour les enfants et les conflits armés. Chargé de la défense des enfants dans le contexte des conflits armés, le représentant informe notamment le Conseil de sécurité de 6 violations graves, y compris le meurtre ou la mutilation d'enfants, le recrutement ou l'emploi d'enfants soldats, les violences sexuelles commises contre les enfants ou encore l'enlèvement d'enfants. Depuis sa création, au moins 115 000 enfants soldats ont été libérés, dont 8 000 en 2015. Leyla Zerougui est l'actuelle représentante spéciale pour les enfants et les conflits armés. Elle revient sur son mandat.
L'impact du conflit sur les enfants, malheureusement, continue d'être terrible. Les enfants sont au cœur de chaque situation de conflit. Ils subissent les mêmes violations que mon rapportant. Depuis 20 ans, nous essayons de faire en sorte que ces violations soient d'abord dénoncées, identifiées. Que des mécanismes soient mis en place, que ceux qui commettent ces crimes ne se sentent pas assurés de l'impunité. Donc tout ce travail continue. 20 ans, les Nations Unies, le monde, ont décidé que la question des enfants affectés par les conflits armés, c'est une question qui les concerne.
Plus d'un an après l'adoption de l'accord politique libyen, les progrès dans le pays demeurent insuffisants, mais un consensus entre les partis commence à voir le jour. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi devant le Conseil de sécurité, le représentant spécial du secrétaire général pour la Libye. Martin Kobler a notamment dit être encouragé par les efforts déployés par les parties libyennes et les pays voisins pour dépasser l'impasse politique. Il a appelé à faire de 2017 l'année des avancées politiques. Au micro d'Isabelle Dupuis, Martin Kobler fait un tour d'horizon des défis qu'affronte le pays.
C'est une situation qui est assez fragile toujours, parce qu'on n'a pas une autorité de l'État, on n'a pas une forte armée, on n'a pas une force de police qui règne Tripoli. Et le pays, on a le général Haftar à l'est, on a des milices, des groupes armés à l'ouest, et c'est pourquoi il faut progresser sur la voie d'avoir un accord entre Est et l'Ouest, sur la base de l'accord libyen, de consolider aussi la chaîne de commande d'une armée libyenne. C'est pourquoi la situation est très très fragile.
Un autre défi important auquel fait face la Libye, c'est sa situation économique. Une situation qui a aussi un impact sur le plan politique et notamment sur le fonctionnement du gouvernement d'entente nationale. Où en est la situation début 2017?
Voilà, je dis toujours, si on veut rester ou être au pouvoir, il faut avoir l'armée et l'argent et les médias. Dans la question de l'argent et d'un budget aussi, on a travaillé beaucoup pour consolider un budget pour 2017. Maintenant, on a ce budget 2017. Les exportations du pétrole ont augmenté. Alors c'est maintenant 700 000 barils par jour et on a beaucoup d'argent qui revient. Maintenant, on a un ministre de Finances. On a la Banque centrale qui a transféré l'argent pour les premiers 3 mois au ministre de Finances, et c'est au ministre de Finances maintenant à Tripoli de le faire parvenir aux autres ministères. Alors c'est un processus qui est nouveau, c'est pourquoi ça dure du temps. Ce que je fais, c'est je pousse parce que je veux toujours vérifier où est l'argent maintenant. Est-ce que ça arrive vraiment au peuple, à l'hôpital, aux écoles, et ce n'est pas encore partout le cas, mais je crois que nous avons atteint beaucoup de progrès.
Qu'attendez-vous des 15? Est-ce que vous vous attendez à ce qu'ils se prononcent plus fermement sur l'importance de mettre en œuvre l'accord politique libyen?
Voilà, je crois que c'est très important de discuter avec le Conseil de sécurité maintenant comment procéder avec le processus politique. Parce que c'était assez clair que l'accord libyen ne peut pas être mis en œuvre dans cette forme. Et on a beaucoup ceux qui disent qu'il faut quelques amendements. Et les amendements sur la structure du Conseil présidentiel, le commandement suprême de l'armée, la chaîne de commandement d'une armée libyenne. Mais je voudrais bien organiser le processus. Et aussi, je dois admettre que je voudrais bien voir le processus être plus vite et pas seulement de discuter seulement, mais de prendre des décisions. Quelles soient les décisions, c'est aux Libyens de décider. Mais c'est une chose qui est maintenant dans la discussion politique, un amendement limité de l'accord politique par rapport à la composition du Conseil présidentiel, mais avant tout les questions sécuritaires. Parce que je crois que la sécurité, c'est la chose la plus importante. Le rôle du général Haftar dans une armée qui est responsable pour le pays entier.
Et c'est avec Martin Kobler que se referme ce journal radio de Nu Info. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Vous écoutez CILS FM 107,9, l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info de fin de journée dans la grande région de Victoria. C'est Alexis Gagnon en votre compagnie jusqu'à 17h. Les conditions météo sont difficiles, particulièrement pour les automobilistes. Alors, encore quelques mots à propos de cette météo. On a moins 1 actuellement dans la grande région de Victoria. La neige continue de tomber. Elle pourrait se changer en pluie verglaçante potentiellement au cours des prochaines heures. Je vous encourage à consulter le portail d'Environnement Canada, météo.gc.ca, ainsi que le portail des transports Drive BC. Alors, la base des forces armées d'Esquimalt a fermé vers 13h. Les campus de l'Université de Victoria et du Collège Camosun ont également fermé leurs portes plus tôt cet après-midi en raison des conditions de météo pénibles. Le campus de Royal Road est demeuré ouvert. Partiellement ouvert puisque certains pavillons ont fermé, le centre d'activité physique notamment, ainsi que la bibliothèque. Le Belfry Theatre a annulé sa représentation de ce soir. Si vous voulez suivre toutes les nouvelles les plus fraîches à propos de cette situation, je vous encourage à vous rendre sur les médias sociaux, sur Twitter en particulier, en suivant le mot-clé YYJ Storm. C'est le hashtag, comme on les appelle, YYJ Snow également est très utilisé et vous avez des mises à jour d'utilisateurs qui sont très informatives à propos des fermetures, des conditions routières, etc., etc. Et je vous parlais tout à l'heure de BC Transit, le service de transport en commun qui, bien sûr, a modifié ses itinéraires pour certains bus et spécialement pour les bus qui sont confrontés à des pentes, des côtes qui doivent faire l'ascension de certaines côtes dans la ville. Donc, on mentionne sur le site de BC Transit que si vous êtes au bas d'une côte en attendant le bus, il se peut que le bus passe tout droit car en s'arrêtant, en s'immobilisant, il pourrait être dans l'impossibilité de repartir. Donc, vaut mieux attendre le bus en haut de la côte plutôt qu'en bas. Et je vous encourage par ailleurs à consulter le site de BC Transit pour avoir tous les détails sur les itinéraires, les dernières alertes. Et donc, voilà. Alors, je vous le disais, il y a environ 1500 personnes qui subissent une panne d'électricité. BC Hydro est un autre site à consulter si vous voulez de plus amples informations. Les gens qui ont une panne actuellement sont du côté de Central Saanich. On va passer aux nouvelles provinciales. La population grandit rapidement en Colombie-Britannique. C'est rapporté par le portail britanno-colombien de Radio-Canada aujourd'hui. Les données préliminaires du recensement de 2016 révèlent que la croissance démographique du Grand Vancouver a dépassé le taux national au cours des 5 dernières années et on parle aussi de la croissance plus largement de la population dans la province. La population de la Colombie-Britannique a augmenté au cours de la période couverte par l'enquête de Statistique Canada. La province a affiché une croissance de 5,6%, la quatrième hausse la plus élevée parmi les provinces canadiennes après l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba, respectivement 11%, 6% et près de 6%. Donc ces trois dernières provinces ont connu les croissances les plus élevées au Canada pour la première fois depuis qu'elles ont joint la Confédération. Donc les prairies sont en pleine ascension actuellement sur le plan démographique. Près du tiers de la population canadienne, nous rapporte cet article, vit dans l'ouest du pays désormais et majoritairement en Colombie-Britannique, soit 13%. Et à propos de Vancouver, on mentionne dans cet article que la population a enregistré une croissance de 6,5% entre 2011 et 2016, selon les chiffres de StatsCan. Au jour du recensement, le 10 mai 2016, la métropole vancouveroise comptait 2 463 431 habitants comparativement aux 2 313 328 habitants du dernier recensement de 2011. Donc un peu plus de 150 000 en hausse entre 2011 et 2016 pour la région de Vancouver. C'est une croissance qui est supérieure à la moyenne nationale, indique-t-on dans cet article. Et dans d'autres articles parus sur le web à ce sujet, on rappelle que 2/3 de la population canadienne vit à moins de 100 km des États-Unis. Donc ça, c'est un fait qu'on constate à tous les recensements. Finalement, la population canadienne est vraiment collée sur la frontière sud. Et par ailleurs, autre fait à noter, le 1/3 de la population canadienne vit dans l'une de ces 3 villes, Toronto, Montréal et Vancouver. Intéressant. Donc, si vous voulez de plus amples détails, je vous encourage à consulter, pour commencer, le portail britanno-colombien de Radio-Canada qui nous donne toutes les infos concernant le recensement et la démographie de la Colombie-Britannique. On passe à une autre nouvelle qui paraît, elle, dans le Globe and Mail, et ça concerne Vancouver et sa lutte contre les boutiques illicites de cannabis, les boutiques qui pratiquent la vente de marijuana de façon illégale. Alors, Vancouver a une approche qui préconise l'action réglementaire et non l'intervention policière. Et dans cet article du Globe and Mail, le conseiller municipal Kerry Jang, qui est en charge du dossier à la mairie de Vancouver, sous l'égide du maire Gregor Robertson, il indique aux journalistes du Globe and Mail que tout va bien, que la politique municipale se passe bien et que les boutiques illégales ferment les unes après les autres, donc en vertu des règlements qui ont été mis en place dernièrement. Donc c'est un article qui est signé par le journaliste Mike Egger, c'est dans le Globe and Mail en date d'aujourd'hui. Sinon, toujours sur la scène provinciale, une étrange déclaration de la première ministre Christy Clark aujourd'hui, en après-midi, lors d'une intervention publique. On savait que le Parti libéral, donc le parti de la première ministre, avait été piraté récemment, il y a quelques jours. Alors, la première ministre a fait une sortie cet après-midi accusant le NPD provincial, oui, d'être derrière ce piratage, donc d'être les auteurs du hacking du site libéral. Alors, c'est une affirmation qui a été faite sans preuve et elle a été rapportée dans tous les médias sociaux. Et le chef du parti néo-démocrate provincial, John Horgan, a rapidement réagi, déclarant que Christy Clark devait se rétracter et présenter des excuses. Donc, aucune preuve pour le moment et un ultimatum de la part du NPD visant la première ministre qui a affirmé que le piratage du site du Parti libéral de Colombie-Britannique était le fait d'une opération néo-démocrate. Donc, on parle d'un crime, là. C'est une accusation qui est assez sérieuse. John Horgan a pris les médias sociaux pour demander les excuses de la première ministre, bien sûr, et il a dit que il ne s'étonnait pas de cette sortie de la première ministre et que ça correspondait à sa personnalité. Donc vous trouverez des articles sur la question. Ça s'est passé cet après-midi, mais il y a déjà des articles sur le sujet, notamment dans la chronique de Mike Smith, qui est un columniste assez suivi. Il est à la radio également. Il s'exprime sur plusieurs tribunes. Donc, Mike Smith a signé un papier cet après-midi intitulé « Premier Clark claims NDP tried to hack Liberal website ». Et un autre article dans Metro News cette fois, « NDP demands apology from BC Premier over hacking claims ». Donc, un piratage qui est rejeté, donc dont la faute et rejeté sur le NPD. Donc, à suivre, une accusation assez grave de la part de la première ministre, Christy Clark. Sinon, dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada, je vous cite un article concernant la transcanadienne, cette route qui traverse le pays et qui se termine ou qui commence, selon le point de vue, à Victoria. Donc, la transcanadienne a été fermée en raison d'une avalanche dans le sud-est de la Colombie-Britannique. Ça s'est passé hier, ou ça s'est passé ce matin plutôt, et heureusement, il n'y a aucun blessé. Parc Canada et les services d'urgence ont déterminé qu'aucun véhicule n'avait été pris par la coulée de neige qui s'est déclenchée vers 3 heures ce matin sur le mont Stephen à la frontière du parc national Yoho. Des débris ont bloqué l'autoroute dans les deux directions et la circulation a été interrompue pour la sécurité des automobilistes depuis le village de Field en Colombie-Britannique jusqu'à la frontière de l'Alberta, donc dans le sud-est. Des avalanches contrôlées sur le mont Stephen avaient été prévues quelques heures plus tard, donc peut-être que les travaux d'appoint devront être menés, des travaux de contrôle d'avalanches plus poussés dans cette section de la Transcanadienne. Donc c'est sur le portail britanno-colombien de Radio-Canada. Plus près de chez nous, dans la ville de Victoria, dans notre média local Times Columnist, on nous signale un incendie qui s'est déclaré la nuit dernière, donc dans la nuit de mardi à mercredi. Ça s'est passé sur la rue Cook Street, dans un multiplex, un appartement, un immeuble à appartement. L'incendie a nécessité l'évacuation de 22 personnes. Heureusement, aucun blessé. Tout le monde est sain et sauf. Il y a seulement un chat qui est porté disparu, malheureusement, nous rapporte Richard Watts, le journaliste qui signe cet article. Donc, ça s'est passé sur Cook Street. L'adresse, c'était le 1021 Cook Street. Et plusieurs espaces dans cet immeuble étaient des espaces commerciaux vides, ce qui a permis à l'incendie de se propager plus rapidement, a indiqué le chef du service d'incendie, Wayne Moody, dans cet article du Times Colonist. On retourne sur le portail de Radio-Canada. Rapidement, une Britanno-Colombienne perd sa bataille en cours contre Starbucks pour un thé trop chaud. Alors, une bataille en cours qui fait penser à toutes ces poursuites qu'on voit souvent aux États-Unis et qui sont moins communes au Canada, donc des poursuites pour avoir glissé, être tombé, s'être ébouillanté, etc. Donc, une Britanno-Colombienne perd sa bataille en cours contre Starbucks pour un thé trop chaud, c'est sur le portail de Radio-Canada. Du côté de Oak Bay News, qui est un média qui gravite dans l'ensemble Victoria News, sur le portail vicnews.com, on nous rapporte qu'un voilier a coulé du côté d'Oak Bay, dans la marina d'Oak Bay. C'est un voilier qui a coulé et qui a une fuite de diesel. C'est assez embêtant, donc l'épave laisse fuiter du diesel. C'est dans la marina d'Oak Bay, vous trouverez ça dans Oak Bay News. La garde côtière est bien sûr en charge de cette affaire. Il s'agit du voilier appelé le Sala Rose. Il a coulé lundi, mais le problème n'est pas du tout réglé. D'ailleurs, la garde côtière va avoir besoin d'aide. Elle a lancé un appel aux fournisseurs spécialisés dans le nettoyage des déversements. Des matelas absorbants ont été déployés autour de l'épave et il faudra peut-être sortir cette épave de l'eau pour mettre fin à la fuite de diesel. Donc c'est dans Oak Bay News en date d'aujourd'hui sous la plume de Christine Van Roek. Et sinon, en terminant ce bloc provincial, un petit article aperçu dans Burnaby Now, qui est un média de Burnaby, un média indépendant, donc en région vancouveroise. On a un portrait interview de l'élu libéral Terry Beach, qui a dû répondre à des questions de citoyens et d'électeurs concernant l'abandon de la réforme électorale du gouvernement, par le gouvernement Trudeau. Donc, la réforme électorale était une promesse de l'élection de 2015. Cette promesse a été brisée par le gouvernement Trudeau qui a renoncé à réformer le scrutin uninominal à un tour, le first past the post, comme on l'appelle. Alors Terry Beach, qui, on le voit dans cet article, patine un petit peu, essaie de justifier la décision de son chef et du gouvernement. Il reconnaît que les électeurs sont déçus. Il reconnaît que c'était une promesse et se désole de constater que ses électeurs sont déçus et peut-être cyniques. Donc vous trouverez l'intégrale de sa déclaration, de ses réponses à ces questions dans l'article de Burnaby Now. Le titre, Burnaby's Liberal MP Responds to PM's Broken Promise. C'est signé par la journaliste Teresa Werenka. On fait une petite pause musicale. On écoute l'artiste Daniel Bélanger, une nouvelle pièce qui s'intitule Il y a tant à faire. On se retrouve dans quelques minutes pour les nouvelles du jour.
Le vague à l'âme, s'il naviguait, il s'aborderait son navire. Il faut marcher, il y a tant à faire. Il faut rouler, m'acharner, 100 fois tourner, piner la terre. Peuvent penser le contraire, il faut rouler, s'acharner, 100 fois tourner. Il y a tant à faire, et ce n'est pas ridicule. C'est comme si c'était facile, s'immiscer dans la lumière d'une longue nuit de l'hiver. Puis je le retrouve tôt ou tard dans le magistral de l'univers. Il faut tisser, il y a tant à faire. Mais ce n'est pas ridicule. C'est comme si c'était facile. S'immiscer dans la lumière. Une longue nuit.
Excellent, Daniel Bélanger. Il y a tant à faire dans l'émission Le Débrief à 16h37. Merci de nous écouter en direct ou encore en rediffusion dans la matinée du 9 février. On a actuellement moins 1 degré au centre-ville de Victoria. La neige continue de s'abattre abondamment, oui, sur la région de Victoria. Pour avoir de plus amples infos, bien sûr, météo.gc.ca, le site d'Environnement Canada, ainsi que le portail Drive BC. Et sur Twitter, vous pouvez consulter le mot-clé YYJ Snow, qui vous donnera vraiment en temps réel plusieurs informations très utiles. On va passer aux nouvelles du jour. Justin Trudeau s'adressera au Parlement européen et rencontrera Angela Merkel. C'est dans la presse presse canadienne en date d'aujourd'hui. Le premier ministre canadien Justin Trudeau se rendra en Europe la semaine prochaine pour s'adresser au Parlement européen et rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel. Le bureau du premier ministre a indiqué que Justin Trudeau sera d'abord de passage à Strasbourg demain jeudi, où il prendra la parole devant le Parlement européen, lequel devrait, la semaine prochaine, voter pour la ratification de l'accord économique et commercial global, le CETA pour les intimes, selon son acronyme anglophone. Donc le CETA, c'est un accord entre le Canada et l'Union européenne, un accord qui a de nombreux critiques. Alors c'est la première fois, indique cet article de la presse canadienne, qu'un premier ministre canadien en fonction prononce un discours devant les élus européens, a-t-on précisé par communiqué. Donc le CETA a été signé le 30 octobre à Bruxelles et l'Union européenne est considérée comme le deuxième partenaire économique en importance du Canada après les États-Unis. Politique internationale toujours, Ottawa prévient Washington qu'il répliquerait en cas de tarifs à l'exportation. C'est dans la presse canadienne par Alexander Panetta. Le gouvernement fédéral a lancé une mise en garde préventive à l'endroit des législateurs américains qui envisagent une taxe sur le commerce transfrontalier. Si vous imposez des tarifs, préparez-vous à subir le même sort. Alors qu'elle concluait mercredi sa visite à Washington, la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a dit avoir signifié aux politiciens américains que le Canada s'opposerait vigoureusement à de nouveaux tarifs douaniers et répondrait conséquemment. La bonne nouvelle est que cette option est encore très hypothétique pour le moment, rapporte Alexander Panetta dans cet article de la presse canadienne. Chrystia Freeland a en effet indiqué avoir été rassurée lors de ses diverses rencontres sur le fait que le débat aux États-Unis sur un ajustement des taxes frontalières n'en est qu'à ses débuts et qu'il y a des positions divergentes sur la question au Congrès américain. Donc le Congrès est divisé sur la question du protectionnisme. C'est une bonne nouvelle, indique cet article de la presse canadienne en date d'aujourd'hui, 8 février. Ottawa prévient Washington qu'il répliquerait à des tarifs d'exportation. Des tarifs à l'exportation. Toujours à propos de Chrystia Freeland, des députés du Parlement canadien à Ottawa veulent entendre la ministre sur son mandat élargi, le mandat élargi que lui a confié le premier ministre Justin Trudeau. Un comité des communes souhaite entendre la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, successeur de Stéphane Dion, à propos de son mandat élargi qui comprend dorénavant le commerce avec les États-Unis. C'est en effet une responsabilité ajoutée et inusitée, sans précédent. Pour ce portefeuille ministériel, le président du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international aux communes à Ottawa, Robert Noe, explique que la présence de Chrystia Freeland est souhaitée devant le comité dans le cadre des audiences sur les relations canado-américaines. Alors, ce sont des audiences qui doivent s'amorcer la semaine prochaine. Et Robert Noe, c'est un député fédéral, libéral. Il a indiqué à la presse canadienne qu'il n'avait jamais vu auparavant une lettre de mandat comme celle qu'a reçue Chrystia Freeland de la part de Justin Trudeau. Donc, il y a des questions de la part du comité. On veut savoir exactement ce que ça veut dire une ministre des Affaires étrangères qui a en plus la responsabilité du commerce avec les États-Unis. Une responsabilité qui est normalement sous l'égide du ministère du commerce international. Alors, le cabinet de Chrystia Freeland a répondu que la ministre a l'intention de témoigner devant ce comité permanent, mais qu'aucune date n'est encore fixée. Réforme électorale, à présent, on en a touché mot en fermant le bloc provincial il y a quelques minutes avant la pièce de Daniel Bélanger. Réforme électorale, une pétition circule après la promesse rompue. C'est un texte de Mélanie Marquis dans la presse canadienne. L'abandon de la promesse libérale de réformer le mode de scrutin donne un second souffle à une pétition destinée au Parlement. Mardi après-midi, en début de semaine, plus de 63 000 personnes avaient signé la pétition lancée en novembre dernier après que Justin Trudeau eut laissé entendre pour une première fois dans une entrevue accordée au quotidien Le Devoir que la réforme électorale n'était plus dans les plans du gouvernement. Le nombre de signatures d'internautes, au départ plutôt modeste, a fait un bond phénoménal depuis que le premier ministre a confirmé la semaine dernière que les libéraux brisaient leurs promesses. Fin janvier, début février, il y avait quelque chose comme 700 signatures à peine, a noté en interview téléphonique l'instigateur de cette pétition, Jonathan Cassels. Les médias ont commencé à en parler, mais avant que ça n'attire leur attention, en un jour, le nombre de signatures est passé d'environ 700 à 28 000, relate cet Ontarien qui a pris l'initiative. Donc, on est maintenant à 63 000, plus de 63 000. Je pense qu'on est au-dessus de 70 000 en date d'aujourd'hui, 8 février. Donc, 70 000 signatures de cette pétition qui conteste, qui demande au gouvernement de respecter sa promesse de réforme du scrutin uninominal à un tour, le scrutin simpliste qui est en vigueur ici au Canada lors des élections générales. Aide financière à Bombardier. Le Brésil dépose une plainte à l'OMC. L'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Le Brésil a officiellement déposé une plainte contre le Canada à l'OMC mercredi pour l'octroi de subventions au secteur aéronautique, quelques heures seulement après que le gouvernement Trudeau eut octroyé un prêt sans intérêt de 372 millions à Bombardier. Ça, c'est dans le journal Les Affaires au portail lesaffaires.com. Dans un communiqué, les autorités brésiliennes qui cible particulièrement le programme de l'avion commercial C-Series de Bombardier, confirme avoir demandé des consultations dans le cadre du système de règlement des différends de l'OMC. Le Brésil estime que les subventions canadiennes affectent artificiellement les conditions de la compétitivité internationale de ce secteur et que le Canada ne respecte pas ses obligations à l'égard de l'organisation internationale régissant le commerce international entre les pays. Donc la plainte est devant l'OMC, qui va s'en saisir, c'est à suivre. Le Brésil, qui bien sûr est le pays du constructeur aéronautique Embraer, est souvent en conflit avec le Canada à propos des subventions accordées au secteur de l'aéronautique. Ça ne date pas d'hier, donc c'est la dernière pomme de discorde, si vous voulez, en date entre le Brésil et le Canada. Vous trouverez ça dans le journal Les Affaires. Et sinon, dans un autre journal à vocation économique et financière, un article sur le nouveau directeur de l'Agence de l'environnement aux États-Unis, c'est dans la Tribune, sur le portail latribune.fr. États-Unis tollé contre le nouveau directeur de l'Agence de l'environnement, Scott Pruitt, qu'il s'appelle. Il a été désigné par Donald Trump pour prendre la tête de l'Agence de l'environnement, la EPA, Environmental Protection Agency. Alors, sa nomination suscite la colère de plusieurs centaines de membres et anciens membres de son administration, donc des membres de l'agence environnementale elle-même, qui ont fait une sortie publique. Alors, c'est très rare de voir ce genre de choses. La colère monte chez certains membres de l'administration américaine, rapporte cet article de latribune.fr. Près de 450 employés et anciens salariés de l'Agence de protection pour l'environnement, l'EPA, ont appelé le Congrès américain à rejeter la nomination de Scott Pruitt à la tête de cette instance fédérale au début de la semaine. Or, Scott Pruitt n'est pas réputé poursuivre les recommandations du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors, c'est un climato-sceptique, pour dire les choses plus simplement. Et pour les anciens employés de l'agence, M. Pruitt est venu semer le trouble et faire avancer ses points de vue et intérêts pour son business. Alors, c'est la position de ses employés et anciens employés de l'Agence de protection environnementale des États-Unis. Alors, on sait qu'il est proche de l'industrie des énergies fossiles. Il a de nombreux liens avec des firmes du secteur pétrolier et il a été dénoncé par plusieurs progressistes, dont le sénateur démocrate Bernie Sanders. Vous trouverez cet article sous le titre « États-Unis tollé contre le nouveau directeur de l'Agence de l'environnement ». également sur le portail latribune.fr. Dans le New York Times à présent, et toujours à propos de climat, je vous mentionne rapidement cet article de Jugal K. Patel qui parle d'une fissure dans la glace de l'Antarctique, une fissure énorme qui a grandi de 27 km en seulement 2 mois. Et c'est une fissure qui grandit très très rapidement. Illustration, symptôme des bouleversements climatiques que nous vivons sur la planète actuellement. Je vous donne le titre de l'article si ça vous intéresse. A crack in Antarctic ice shelf grew 17 miles in the last 2 months. Donc une fissure dans la couche de glace de l'Antarctique a grandi de 27 km dans les 2 derniers mois. Et maintenant, toujours dans ce bloc nouvelle du jour, on va se transporter dans le fil de la Canadian Press, donc le côté anglophone de la presse canadienne. Une nouvelle sur le décret anti-migratoire de Donald Trump, un décret qui est tombé, vous le savez, le 27 janvier et qui vise 7 pays à majorité musulmane. Il y a une levée de boucliers organisée par des universitaires de partout dans le monde. Ces universitaires s'unissent pour annuler leur voyage à des conférences, leur déplacement à des conférences se tenant sur le territoire américain. Donc ça inclut bien sûr des intellectuels, des universitaires, des chercheurs, des professeurs, des étudiants qui sont en phase de thèse, de maîtrise ou de doctorat. Et ils s'unissent partout dans le monde pour annuler leur voyage et ainsi faire pression sur le gouvernement Trump, l'administration Trump, qui a mis en place ce décret anti-musulman, comme on l'appelle désormais. C'est un décret qui empêche de nombreux ressortissants, les ressortissants de pays à majorité musulmane, 7 pays en particulier, dont l'Iran et le Yémen. Alors, vous trouverez cette nouvelle dans la presse canadienne. Côté anglophone, Canadians join global movement to boycott academic events held in the US. Et petite note sur la francophonie pour terminer ce bloc. Sommet de la francophonie 2022, pourquoi pas l'Acadie? C'est un article qui paraît dans le portail de Radio-Canada. Le président par intérim de la Société nationale de l'Acadie, Xavier-Laure Giroux, a lancé l'idée d'une candidature acadienne pour le sommet de la francophonie 2022. Il a fait cette déclaration lors d'une interview radio accordée à Radio-Canada. Il était présent au dernier sommet de la francophonie qui s'est tenu récemment à Madagascar. Ça lui a donné des idées, dit-il dans cet article, et il aimerait que l'Acadie soit l'hôte du sommet de la francophonie 2022. Il mentionne que d'autres villes de petite taille dans le passé ont accueilli le sommet de la francophonie. Il cite l'exemple de Montreux en Suisse qui avait accueilli le sommet de la francophonie en 2010. Vous trouverez cet article dans le portail de Radio-Canada, sommet de la francophonie de 2022, pourquoi pas l'Acadie. Et finalement, toujours à propos de francophonie, je vous signale l'inauguration d'un monument de la francophonie à Queen's Park. Ça, c'est au cœur de Toronto. C'est une bonne nouvelle. C'est la journaliste du droit d'Ottawa, Sylvie Branch, qui nous en informe. Les Franco-Ontariens auront leur monument à Queen's Park. Ce monument rendra hommage aux legs des francophones en Ontario et à leur contribution à la province. Le monument qui sera dévoilé au début de l'année 2018 marquera également le 150e anniversaire de l'Ontario en tant que province. Ce monument sera situé sur la pelouse ouest de l'entrée principale des terrains de Queen's Park, à proximité de l'avenue University et de la rue Collège. Donc c'est en plein cœur de Toronto, vous le voyez. Alors on fait une petite pause musicale, 16h52. On va écouter l'artiste Jonathan Savage, une pièce qui s'intitule Toboggan. Au retour, on revient sur les conditions météo.
J'ai pris le chemin le plus long. Pour me rendre dans ton salon.
remonter tout en haut. On dira qu'en haut tout est plus beau. On va descendre la montagne en toboggan. On va s'inventer un tonnerre pour faire peur à la peur de le faire. On va courir le monde entier dans notre fusée de papier. On va monter.
L'auteur, compositeur, interprète Jonathan Savage avec la pièce Toboggan dans l'émission Le Débrief à 16h55. Nous sommes le 8 février, la neige continue de tomber, ça s'est un petit peu calmé et cette neige pourrait se transformer en pluie et même en pluie verglaçante au cours de la soirée. On vous encourage à consulter le portail d'Environnement Canada, météo.gc.ca, pour avoir toutes les informations. Le portail Drive BC, c'est pas mal aussi puisque on a toutes les conditions routière en temps réel avec des webcams, des avertissements. On peut aussi se rendre sur le portail BC Transit si on veut prendre le transport en commun, emprunter le transport en commun. Il y a eu des signalements de bus à deux étages coincés à certains endroits de Victoria dans les pentes. On pense notamment à la pente de Hillside, aux environs de Cedar Hill Road, et il y a d'autres endroits là qui sont un petit peu épineux pour ce genre de véhicule. Donc vous pouvez suivre le fil Twitter de BC Transit ou encore vous rendre directement sur le site de BC Transit dans la section des alertes. On a dans cette page les itinéraires de bus modifiés et des informations afférentes. Il y a une panne d'électricité qui est toujours déplorée du côté de Central Saanich. Je vais rafraîchir la page tout de suite pour vous. Effectivement, dans le sud de l'île de Vancouver, il y a des pannes. On avait 1500 personnes sans électricité tout à l'heure et les équipes de BC Hydro travaillent à restaurer le courant, bien sûr, et on a sur le radar une neige qui recouvre le sud de l'île toujours à 16h57 et ça continue au cours des prochaines heures. Je vais vous lire l'alerte qu'avait émis vers 15h46, donc c'est tout récent, c'est tout frais, Environnement Canada sur son portail, ça concerne le Grand Victoria. On prévoit des conditions hivernales dangereuses. La première bande de neige s'est propagée sur le sud-ouest de la Colombie-Britannique cet après-midi. Elle est en train de faiblir en ce moment. Une zone de neige plus intense se formera ce soir et apportera une accumulation plus importante. Donc, ça n'est pas terminé. Vigilance et prudence sont de mise. De plus, poursuit cette alerte, il pourrait y avoir de la pluie verglaçante alors que de l'air plus doux arrivera en altitude. Ceci est plus probable dans les secteurs de l'intérieur, donc loin des côtes. À mesure que l'air plus doux s'installera, la limite pluie-neige augmentera et les précipitations se changeront en pluie dans la plupart des secteurs d'ici jeudi matin. Alors, vous avez le texte intégral de cette alerte, de cet avertissement d'Environnement Canada sur le portail météo.gc.ca pour la région de Victoria. Je vous invite à le consulter si vous voulez aller un plus en profondeur. On va se laisser dans quelques instants. C'est déjà la fin du débrief. Merci d'avoir été avec nous au cours de ces 60 minutes d'information. Alexis Gagnon au micro. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
L'Odyssée du rythme. Une émission préparée et présentée par Philippe Godefroy. À la technique, Nicolas Fisch. L'Odyssée du rythme va vous transporter vers des horizons de couleurs musicales différentes.